Bon, alors, les sacrements, j'en ai retenu trois. Le sacrement de l'ordre, le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement, bien sûr, de la pénitence. Le sacrement de l'ordre, on n'y pense pas assez. Père Pio nous rappelle la grandeur du sacerdoce. L'ordre est un sacrement et quand un prêtre est ordonné, non seulement il reçoit un caractère sur son âme qu'il configure plus à notre Seigneur Jésus-Christ, à son sacerdoce, mais en plus il reçoit une grâce sacerdotale. C'est une grâce sacerdotale propre à ce sacrement et qui continue d'ailleurs toute sa vie, s'il est fidèle. Et d'ailleurs, Saint Paul le rappelle à Timothée, ne néglige pas la grâce qui t'a été donnée par l'imposition des mains. Saint Paul dit bien, ne néglige pas cette grâce. C'est une grâce qui s'entretient, qui se cultive. Et cette grâce sacramentelle, donc, qui configure notre Seigneur Jésus-Christ, doit faire du prêtre non seulement un sacrificateur, un être qui sacrifie, voilà, au nom de Jésus, mais aussi un être sacrifié, une victime. Parce que Jésus lui-même était victime. C'est la grandeur du sacerdoce dans le Nouveau Testament, qui est bien supérieur à l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y a le sacrificateur, et puis les victimes, c'était des animaux. Dans la Nouvelle Loi, Jésus est à la fois prêtre et victime. C'est quelque chose que souvent on ne pense pas assez. Et lors de l'ordination sacerdotale, l'évêque est dit au prêtre, à un certain moment, dans le rituel des pontificales, « Imitamine quod tractatis. Imitez ce que vous tenez dans vos mains. Imitez l'hostie que vous tenez dans vos mains en célébrant. Soyez vous aussi des victimes. » C'est ça le sens profond de cette phrase. Et on voit dans toute la vie des saints, les prêtres qui ont fait le plus de bien étaient les prêtres qui étaient le plus sacrifiés, qui vivaient le plus de l'esprit de sacrifice. Et c'était ça le formel de leur grâce sacerdotale. Non seulement d'être prêtre et de pouvoir sacrifier à l'autel, ça à la rigueur, c'est pas difficile, j'en fais l'expérience moi-même, il suffit de suivre les rubriques, puis on y va, mais aussi, eh bien, d'être sacrifié. Dignité de l'homme Jésus jusque-là. Et d'ailleurs, c'est pas propre au prêtre, c'est propre aussi à vous laïcs. C'est propre aussi à vous laïcs. Il faut, à la messe, participer au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la signification de la goutte d'eau dans le calice. Le vin représente le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. La goutte d'eau, c'est le sacrifice des fidèles qui s'y rendent pour ne plus faire qu'une seule chose qui est présentée à Dieu le Père. Et ainsi, le sacrifice, ils sont unis à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, et bien, sont revêtus de ses mérites. Un peu comme Jacob avec la peau des chevreaux. Vous connaissez l'histoire dans l'Ancien Testament. Alors, Père Pio avait bien sûr parfaitement compris ça, et sur son manège d'ordination, il avait déjà écrit « Faites de moi un prêtre saint, une victime parfaite ». Il demandait à Dieu ce jour-là « Faites de moi un prêtre saint, une victime parfaite ». Pour lui, les deux choses vont ensemble. Et trois mois après, il s'offrira d'une manière encore plus spéciale, et j'ai un peu plus solennelle, comme victime à Dieu, plus particulièrement pour les pécheurs et les hommes du purgatoire. Et Dieu va l'écouter. Et d'ailleurs, notre Seigneur, plusieurs fois dans les apparitions, lui fera comprendre qu'il doit être victime. Il lui dira, le Père a besoin de victime. Et si on a compris ça, on comprend pourquoi il n'avait plus à souffrir toute sa vie. Pourquoi il était victime de tant de maladies, de tant de persécutions, de tant de souffrance que l'on va voir dans la dernière partie si le bon Dieu et la cassette le veut bien. En 1913, par exemple, pour montrer jusqu'où ça va, notre Seigneur va se révéler à lui dans une vision qui est assez célèbre, que le père de Robert raconte dans une de ses cassettes. Père Pio va voir des prêtres dans une grande sacristie revenant, voyant célébrer la messe, retirant ou remettant mettant leurs ornements. Et notre Seigneur regarde ces prêtres avec le visage très triste et en pleurant, et à un moment, il laisse échapper cette exclamation, j'avoue qu'il me fait trembler, et notre Seigneur dit « Bouchez !» Bouchez. Ces prêtres allaient célébrer sans savoir ce qu'ils faisaient. Ils allaient sacrifier notre Seigneur Jésus-Christ sur l'autel sans y prêter attention, comme un boucher qui sacrifie la bête. Voilà. Et cette vision va marquer profondément Padre Pio. Et dans les années 60, alors que l'Église commence déjà à se faire sentir dans l'Église, dans la grande sacristie de Saint-Germain Rotondo, un jour le Padre Pio va descendre pour célébrer sa messe et il va voir un des jeunes prêtres qui est un clergyman, qui va tirer leur veste rapidement, qui bouge des tiroirs, etc. Et le Padre Pio va dire à son confrère qui le soutenait, parce qu'il avait du mal à marcher, il Padre Pio va se mettre à pleurer et il va dire boucher. L'enseignement dit que pour nous, prêtre, ça doit nous faire réfléchir. C'est cet aspect du sacrifice de la messe. On comprend que cette parole de notre Seigneur sur le calvaire perd par le monde parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. C'est des leçons aussi qu'il faut retenir pour nous-mêmes quand on assiste à cette parole de la messe. Il faut éjouir de notre propre sacrifice. Et c'est ce qui explique que Saint Bernard disait que dans le monde, on trouve beaucoup de prêtres, mais rarement un médiateur. Saint Bernard disait ça à son époque, et on le voit dans la personne du Padre Pio. Le Padre Pio était vraiment un médiateur entre Dieu et les hommes. Et il sacrifiait vraiment pour Dieu, un sacrifice agréable d'eau, et pour obtenir des grâces pour les hommes. On parle peut-être un peu plus loin de la célébration de la messe et de tout ce qui touchait. Ensuite, le sacrement de pénitence. Donc, à notre époque, hein, comme je disais ce matin en Berrieux, à notre époque où le sacrement de pénitence s'est complètement délaissé, enfin, complètement, malheureusement, trop délaissé, c'est les absolutions générales. Le nouveau code de droit canon n'oblige plus à ce qu'on fait une fois par an. C'est le Père Pio vient nous rappeler l'importance de la confession sacramentelle au prêtre. Ça vient, on reste dans l'esprit protestant, mais on peut parler à Dieu seul. Dans ma conscience, c'est une affaire entre moi et Dieu, pas l'intermédiaire. Pas l'intermédiaire entre moi et Dieu. Ça, c'est la mentalité protestante. Le Père Pio nous rappelle à notre époque que notre Seigneur a donné plus la clé au prêtre. Pour délier sur terre, et ce qui sera délié sur terre sera délié dans les cieux. C'est une information qui sera retenue pour notre époque. J'espère qu'à l'occasion de cette béatification qui fait beaucoup de. Qui fait beaucoup de bruit, on n'en a pas encore parlé, même sur les médias. Je ne sais pas si c'est ici que j'ai dit tout à l'heure, mais à Saint-Germain-en-Laye, enfin, l'an dernier, il y a 7,5 millions de pèlerins. 7 millions et demi de pèlerins. Il y a plus qu'à Lourdes. À Lourdes, il n'y a pas 6 millions de pèlerins. Donc, Padre Pio, c'est quand même une personne qui intéresse les gens. Et j'espère, rien que ça, quand même, on sera obligé de parler de sa confession, des choses qu'il faisait en confession. Si ça peut amener les hommes vraiment au confessionnal, j'espère. J'espère. Parce qu'en attendant, les confessionnels sont déserts. Comme je le disais ce matin, dans l'église de Saint-Joseph, cette semaine, on a vu pendant notre promenade avec les frères que le confessionnal servait de placard à balai. Le balai de paille de riz est contre l'étole, porte-manteau. Monseigneur Carta disait que c'était certainement son titre de gloire de confesseur. Et il dit que dans l'histoire de l'Église, c'est certainement lui qui a battu tous les records de résistance au confessionnal. Il peut confesser jusqu'à 15 heures par jour, voire au maximum 19 heures. Et en 1963, on est sur le registre des confessions, parce qu'il fallait s'inscrire pour se confesser à lui, il fallait avoir son billet de confession et attendre son tour. Il a eu plus de 100 000 confessions dans l'année. 100 000 confessions. Alors à cette époque, il y avait eu la visite banque apostolique dont j'ai touché un mot tout à l'heure, et donc on avait obligé à ne pas confesser plus de 4 minutes. 4 minutes au maximum. Si au bout de 4 minutes, la personne n'avait pas l'absolution, il devait partir. Sinon, on allait le retirer du confessionnal. Bon, c'est ce qui explique qu'il y a autant de confessions aussi. Ça lui permettait d'en faire plus de 270 par jour. Pendant ces 4 minutes, ça lui suffisait pour dire le mot qu'il fallait pour toucher la personne. Pour dire vraiment ce dont elle avait besoin. Alors, les témoignages sont innombrables de ce qu'il a pu faire au confessionnal. Je pense que vous en avez tous plus ou moins entendu parler. Je ne vais pas m'y attendre. Je voudrais insister sur un certain point, c'est qu'il se montrait quand même sévère. À notre époque, la pastorale dans l'église, même chez nous, dans la tradition, on est plutôt tendre au confessionnal. Les pénitences par rapport à autrefois, enfin, je ne crois pas qu'on les envoie en croisade, dans les Balkans en ce moment, autrefois ça se faisait. On envoyait quelqu'un en croisade pour. Si vraiment la peine de le faire, des fois il y avait des peines qui étaient très graves. Donc maintenant les pénitences sont quand même beaucoup plus souples. Mais oui, Père Pio, pas tellement au niveau des pénitences, mais au niveau de l'attitude vis-à-vis des fidèles. Il refusait assez fréquemment l'absolution, voire plusieurs fois de suite. Personne n'a attendu plus de 8 fois avant d'avoir l'absolution. Plus de 8 fois. Soit parce que les personnes étaient mal disposées, venaient par curiosité, soit parce que des pénitents trop mondaines, ou mal vêtus, ça pouvait arriver. Ils faisaient des coups de les ornées des jupes, si les jupes étaient trop courtes. Certains péchés, le péché qui le faisait le plus souffrir était ceux de contraception et d'avortement. Ça le torturait sur son siège de. Si une personne confessait ce péché-là, il en était torturé sur son siège. Son directeur, lui, il avait reproché cette année si dure de renvoyer les gens sans absolution. Et il lui a répondu, « Je peux vous obéir, mais c'est Jésus qui m'a dit à chaque fois comment agir avec le pénitent. » C'était notre Seigneur qui lui disait, « Celui-là, il faut le secouer. » Alors, il ne faut pas nous, prêtres, dire ben, on va faire comme Père Pio, parce qu'on n'a pas sa grâce. Hein. Et il avait dit à ses confrères, bon, s'il y en a qui vous reviennent à vous parce que je vais refuser l'absolution, vous donnez-lui. Vous n'êtes pas Père Pio. À la même époque, un contemporain, le saint Léopold de Castelnuovo, un capucin aussi, de Padoue, un confesseur très réputé au moins dans son milieu, qui est canonisé donc, qui est mort en 1941, donc c'est un peu un contemporain du Padre Pio, lui qui a confessé énormément, qui lui aussi a subi des persécutions très dures de l'évêque Bortignon, de l'évêque de Padoue. Ce saint capucin, à la fin de sa vie, a dit « Je regrette, mais dans ma vie j'ai dû refuser 5 fois l'absolution. Voilà. » Mais ce saint est aussi le don pour les personnes mal disposées, pour les bien disposées au confessionnal. Si une personne était mal disposée, il avait ce don au confessionnel pour le bien disposer. Donc ça montre, vous voyez, dans les saints, ils ne sont pas toujours imitables d'une manière tranchée. À noter aussi qu'il avait une très haute idée du sacrement de pénitence. Et il disait, toutes les fois que je me rends au confessionnal, je tremble. Je tremble. Parce que je vais y administrer le sang du Christ. Et c'est vrai. Nos péchés sont pardonnés par le sang qui a coulé sur la croix, tout simplement. Le prêtre ne fait qu'administrer les effets de la passion de Jésus. Il ne fait que verser son sang, un peu, c'est une image peut-être un peu crue, mais il fait faire une bouche du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur l'âme qui est au tribunal de la pénitence. Et Père Pio, donc, qui est un profond émotion naturelle, était conscient de ça. Et il en tremblait. Il en tremblait vraiment. Et il le disait aux prêtres, quand il y avait des prêtres, il disait, réfléchissez bien à ce que vous faites quand vous confessez. Réfléchissez bien à l'importance de ce sacrement. Pour terminer, pour son sacrement de pénitence, j'ai lu ça dans la lettre de la Pérodière. Il y a des petites histoires, et une qui m'a beaucoup plu. C'est raconté par un photographe de San Giovanni Rotondo, un converti aussi. Un de ses amis était venu le voir et donc il a dit va te confesser au Padre Pio. Cet ami s'est confessé. Bon, le Padre Pio lui a fait mettre le doigt sur certains péchés qu'il avait oublié de confesser, des péchés graves. Et puis, à la fin, cet ami donc a reçu l'absolution et est sorti du confessionnal. Et quand il a retrouvé son ami photographe, il n'a pas pu lui parler. Il est resté 1 heure sans pouvoir lui parler, complètement commotionné. Alors bon, ils ont prié ensemble, et puis au bout d'une heure, quand il a pu enfin parler, l'autre lui a dit alors la confession, ça s'est bien passé. Alors il dit oui, et il lui a, bon il n'a pas raconté les péchés qu'il a eu, mais il dit à la fin, j'ai regardé et j'ai vu Jésus en vêtements blancs qui me regardait. À la place du Père Pio, il a vu Jésus en vêtements blancs qui le regardait. Enfin, là aussi, c'est quelque chose qui est très profond, qui montre que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui absout au confessionnel. Quand le prêtre dit « Ego te absolvo », »,« Je t'absous », c'est pas lui. On n'a pas le pouvoir de pardonner au nom de Dieu. Les offenses sont faites à Dieu. C'est vraiment, ça permet d'avoir une vue de foi sur le confesseur, confessionnel. Troisième sacrement, donc, qui a procuré beaucoup de grâce au Padre Pio, l'Eucharistie, on en a déjà parlé. Je voudrais surtout m'arrêter au sacrifice de la messe, puisque c'est que par la messe que nous pouvons avoir l'Eucharistie. Donc, Padre Pio nous rappelle à une époque de néo-modernisme, où on fait de la messe un simple repas, Padre Pio nous rappelle que c'est un sacrifice, avant tout. C'est avec le Concile de Trente, le dit bien, la messe, c'est le renouvellement non seulement du sacrifice du calvaire. Et Père Pio, eh bien, avait ce don pendant la messe de le faire comprendre aux assistants. Et des fois, on se pressait déjà très tôt le matin, déjà à partir de 2h du matin, les gens venaient pour être sûrs d'avoir une place pour assister à sa messe. Et quand on ouvrait les portes à 4h, eh bien, c'était la rue, dans l'église, on voulait être aux premières places. Et ensuite, une fois tout le monde était en place, c'était le silence le plus complet. Parce que si jamais il y avait quelqu'un qui parlait, il était sûr que Padre Pio foulait le regard. Il avait le respect du lieu saint. Et c'était le silence le plus complet. Alors ça devait être très prenant. Je sais pas, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont assisté à une messe du Padre Pio. Non. On n'est pas peur de lever la main, ça ferait plaisir, mais ça donne un témoignage au moins autorisé. Donc cette messe du Padre Pio, c'est une ambiance, tous ceux qui ont assisté, croyants ou non-croyants, ont tous été bouleversés par l'assistance à la messe du Padre Pio. En particulier, on percevait très nettement qu'il revivait la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il le disait d'ailleurs lui-même, à la messe, je suis sur la croix. Et il revivait les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, la flagellation, le couronnement d'épines, etc. Tout ça, il le revivait à la messe, et ça se voit des fois sur certaines photos. Il y a une photo qui m'a particulièrement frappé, c'est presque une grimace qu'il a sur son visage. Une photo très très émouvante, il n'est vraiment pas reconnaissable. Tellement il est torturé sous la douleur. Et ça me rend bien que la messe est un sacrifice. Ça renouvelle le sacrifice de Jésus. Il avouait que c'était les plus grandes douleurs qu'il ressentait de toute la journée, était pendant le saint sacrifice de la messe. Alors cette messe, d'après donc ceux qui ont assisté, elle était longue, elle durait en général une heure et demie, quelquefois 2 heures, et ça pouvait durer jusqu'à 4 ou 5 heures dans certaines conditions. C'est pas parce qu'il était long à célébrer, il n'avait pas de gestes particulièrement longs, quoiqu'ils étaient bien précis, et puis qui prenait le temps qu'il fallait pour bien dire la prière. Mais c'est parce qu'il était à certains moments bien particuliers en extase. Voilà. Et là encore, comme pour la confession, c'était pas lui qui se commandait, c'était notre Seigneur Jésus-Christ qui le bloquait, si vous voulez. Il disait, je suis comme cloué. Il pouvait plus. Et ces moments particuliers, le père Agostino, son confesseur, un jour est venu au couvent pendant la période de réclusion, c'est dans les années 30, et il a chronométré sa messe pour pouvoir en faire un petit compte rendu aux besoins aux autorités. Et cette messe avait fait 1h35, et je vous donne, c'est important, enfin pour moi, c'est, en tant que prêtre, mais pour vous aussi, ça peut être intéressant de voir à quel moment notre Seigneur Jésus-Christ lui disait d'arrêter. Quels sont les moments dans la messe où eh bien, il faut relancer notre attention. Alors donc, cette messe du 1h35, le père Agostino a chronométré et momenté des vivants 25 minutes. L'intention de la messe, pour qui elle était célébrée, et puis toutes les autres intentions qu'il pouvait avoir personnelles, qu'il a rajoutées. 25 minutes à faire son momenté des vivants. Les défunts, 15 minutes. Un quart d'heure pour recommander les défunts. Son action de grâce après avoir communié 20 minutes. Donc, après avoir pris le précieux sang. Donc si on fait le calcul, au total, ses arrêts, ça fait une heure. 1h35 moins 1h, ça fait 35 minutes. Pas une messe qui était excessivement longue, mais c'était surtout en fait ces arrêts qui faisaient que sa messe était longue. D'autres aussi ont remarqué qu'il y avait des fois, on marquait des arrêts plus longs au moment de l'élévation, par exemple. Donc ils pouvaient durer une dizaine de minutes avec le calice à bout de main. À noter aussi qu'il se préparait très longuement à la messe, 1 à 2 heures de méditation avant la messe, et 1 heure d'action de grâce après. Voilà. On voit ça dans la vie des saints. Les saints les plus édifiants, parmi les prêtres, on voit tous préparer et faisant une action de grâce. Ouais, c'est pas tellement juger les saints d'après la manière dont ils célébraient la messe, mais surtout la manière dont ils s'est préparé et après de faire leur action de grâce. Et nous, on peut en tirer des leçons pour nous aussi, tout à fait. Hein. D'éviter d'arriver au dernier moment, hein, de nous préparer un petit peu à l'action qui va se faire, et puis de ne pas partir tout de suite non plus, tout de suite après la messe. Je ne sais plus quel curé, une fois, qui avait fait accompagner des Serro Ferrer, une dame qui avait toujours l'habitude de partir au dernier évangile. Et un jour, il avait envoyé les Serro Ferrer pour l'accompagner parce qu'elle avait un col Saint-Sacrement en elle. Bon. Alors maintenant, troisième point, il reste combien de temps? Il reste 20 minutes. Bon. On va essayer d'aller vite. Donc, troisième moyen d'obtenir la grâce, les œuvres méritoires. Donc, vous savez que pour qu'une œuvre soit méritoire, il faut qu'elle soit faite avec charité, voilà, hein, que nous ayons déjà soyons en état de grâce, bien sûr. Mais il faut qu'elle soit aussi inspirée par la charité. Ça sert à rien de fonder des restaurants du cœur, hein, si on n'a pas la charité surnaturelle derrière. Hein. C'est ce qui est important, c'est de le faire vraiment par amour de Dieu et du prochain en Dieu. Alors, il y a deux sortes d'œuvres méritoires, il y a celles qui sont libres et puis celles qui nous sont imposées par la Providence. Et de même, il y a aussi les œuvres qui sont faites pour Dieu ou pour le prochain. Alors, les œuvres méritoires pour le prochain, ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Et notre Seigneur, en Saint Matthieu, semble même dire que c'est sur celles-là qu'on sera surtout jugé au dernier moment. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais malade, vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous m'avez visité. Ça va être beaucoup frappé par Pio, et c'est ça qui est à l'origine de son hôpital. Ces paroles de notre Seigneur Jésus l'avaient frappé et il s'était dit, bien, celui qui est à la fois malade et pauvre, il est deux fois Jésus. Et c'est ce qu'il a décidé à faire cet hôpital pour, qui est à l'origine pour les pauvres. Voilà, pour que n'importe qui puisse se faire soigner avec les meilleurs moyens. Que la plus haute technique ne soit pas réservée aux plus riches. C'était ça, c'était vraiment inspiré d'une grande charité. Donc, le Père Pio n'a pas seulement fondé cet hôpital, mais il avait fondé aussi, ça on en parle moins souvent, plusieurs hospices pour des enfants dans les villages voisins. Et, d'après les chiffres que j'ai, dans les années 70, il y avait encore 900 enfants qui étaient soignés dans les villages voisins, dans des hospices, des enfants malades ou des enfants qui avaient besoin d'être rééduqués. Et Padre Pio est à l'origine de cette œuvre. Et il était, on dit qu'il était indifférent à aucune œuvre de bienfaisance. Il s'était même beaucoup intéressé aux soins après les lépreux. Il avait beaucoup agi dans ce sens. Œuvre de miséricorde corporelle, donc, mais aussi il y a les œuvres de miséricorde spirituelle qui sont supérieures, de même que l'âme est supérieure au corps, et bien les œuvres de miséricorde spirituelle sont supérieures encore. Le catéchisme nous en donne 7. Instruire les ignorants, Padre Pio l'a fait au confessionnal, ceux qui ignoraient la gravité de leurs péchés, il leur montrait. Travailler à la conversion des pécheurs, il s'était offert pour eux, et Dieu sait combien il en a converti. Un jeune communiste athée, il a avoué un jour, si tu savais combien tu m'as coûté. Vraiment, c'était offert victime pour eux, et c'était pas pour rien. Troisième œuvre, consoler les affligés. Beaucoup d'âmes venaient le voir rien que pour se faire consoler. Des peines trop dures à porter, des décès, des croix trop longues, trop difficiles à porter, on venait voir Padre Pio, rien que pour ça, même pas pour se confesser, pour au moins avoir le soulagement, le mot qui viendrait. Et effectivement, nous prêtres, on s'en rend compte, hein, des fois, surtout dans des personnes âgées, ou dans des ministères de rémonction ou d'autres choses, ou dans des hospices, ou des hôpitaux, une personne qui souffre, c'est très difficile d'avoir le mot qui va la soulager. C'est très difficile. Très difficile. C'est une personne qui souffre, vraiment, c'est là que le Saint-Esprit doit venir à l'aide pour pouvoir consoler, pour pouvoir soulager. Quatrième œuvre, donner de bons conseils, là encore, combien il en a donné.
prier pour les âmes souffrantes du purgatoire. Il s'était donné comme victime pour eux. Donc vous voyez, toutes ces œuvres de bienfaisance, il les a faites, mais d'une manière parfaite, hein, je n'insiste pas, mais je pourrais donner des exemples beaucoup plus forts. Et puis les deux dernières œuvres de miséricorde spirituelle, on va les voir un peu plus en détail par la suite, c'est supporter les défauts d'autrui et pardonner à ceux qui nous blessent. Voilà, ça c'est des œuvres involontaires. Et c'est pas les moins méritoires. Bon. Alors, donc la souffrance. On a, si on le met aussi assez facilement, le Père Pio, l'homme de la souffrance. Et ça m'a fait penser à une citation du bienheureux Antoine Chevrier. Vous connaissez sans doute ce prêtre de Lyon, hein, bienheureux, un contemporain du Saint Curé d'Ars, un tertiaire qui a fondé le Prado. Et voici ce que disait le bienheureux Chevrier. Il faut bien se rappeler que ce n'est que par la souffrance que notre Seigneur a converti le monde. Au discours du pain de vie, c'est un beau sermon certainement, eh bien la plupart sont partis en disant ces paroles sont trop dures à entendre. Notre Seigneur a converti que par la souffrance, par la passion. C'est là où il a vraiment converti le monde. Donc, déjà, le Père Chevrier pose ça en prémisse, en principe. Que la souffrance est un moyen de convertir, le moyen d'attirer la grâce. Qu'il faut acheter la grâce par la souffrance. Je vous demande d'écouter tout ça en pensant à Padre Pio. Chaque phrase convient exactement à lui. Que celui qui ne souffre rien ne gagne rien. Si nous portons sur nous cette marque de la souffrance, nous convertirons. Nous offrirons nos peines à Jésus pour gagner les âmes. La souffrance est le partage du prêtre. La souffrance est une grâce. Rien n'attire davantage. Elle a un attrait qui convertit les cœurs les plus endurcis. Pour Padre Pio, c'est très vrai. La souffrance, c'est le cachet du véritable apôtre. Toutes ces paroles conviennent tout à fait pour expliquer Padre Pio. Il a gagné les âmes par ses souffrances. Et il disait lui-même que la souffrance est le plus puissant levier pour redresser le monde. Alors, il faut dire que Padre Pio a souffert parfaitement, c'est-à-dire avec Jésus. Il a souffert en union avec Jésus. Il a souffert les yeux sur Jésus. C'est ça qui a fait tout le mérite de sa souffrance et qui lui a permis de souffrir à ce point-là. Et il a souffert non seulement par ses stigmates, mais aussi dans toute sa vie. Depuis sa plus tendre enfance, jusqu'à sa mort, il a, comme Jésus, suivi un pèlerinage calvaire, il a éprouvé l'abandon du Père Céleste, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été trahi par les siens, il a eu son propre Judas, on le verra tout à l'heure si on a le temps. Il a été calomnié, persécuté par des prêtres. Il a vraiment suivi Jésus sur son calvaire. Il a lui aussi sué du sang, Padre Pio. Alors, toutes ces souffrances, mais Padre Pio les a assumées comme Jésus, uniquement pour sauver les âmes, par expiation. Et il disait lui-même à son confesseur, « Croyez, mon Père, que je me réjouis des souffrances. Jésus lui-même veut mes souffrances. Il en a besoin pour les âmes. » Et il écrivait dans une autre lettre, « Les âmes ne sont pas données gratis. Elles s'achètent. Vous ignorez ce qu'elles coûtèrent à Jésus. Aujourd'hui encore, c'est toujours avec la même monnaie qu'il faut payer. » Voilà la monnaie avec laquelle on gagne les âmes. Et c'est ce que la Sainte Vierge a rappelé à Fatima. Beaucoup d'âmes se perdent parce que personne ne veut prier ni faire de sacrifice pour elles. Beaucoup d'âmes se perdent parce qu'on ne veut pas faire de sacrifice pour elles. La souffrance, c'est la monnaie pour acheter les âmes. Alors, Padre Pio a souffert dans son corps, bien sûr, on en a parlé, les maladies, cette fièvre volante, rappelons-nous quand même, tous les jours, avec un corps avec 48 degrés, bon, il n'avait peut-être pas ses pointes toujours de 48 degrés, mais ça devait être une vraie fournaise intérieurement, rien qu'au niveau physique, mais déjà si on a 39-40, déjà on n'est plus très bien, et puis il ne faut surtout pas nous toucher, hein, parce que s'imaginer un petit peu quel enfer ça devait être en lui, entre guillemets. Ces stigmates qui étaient douloureux, il faut penser que les stigmates du pied, il dit que c'était ceux qui lui faisaient le plus souffrir, il reposait sur ses pieds. Il marchait sur ses pieds, ses pieds posaient toujours, quand il était au confessionnal, il n'avait pas les pieds en l'air. Il souffrait plus particulièrement entre le jeudi et le samedi, voilà, bien sûr en union avec notre Seigneur. Et aussi, on le verra aussi un peu plus loin, dans les souffrances physiques, il faut compter les coups que le diable lui donnait la nuit. La nuit, le démon, un peu comme le Saint Curé d'Ars, il arrachait de son lit et il le rouait de coups de bâton, de barre de fer. il le dénudait, c'est souvent physique. Et mais il dit lui-même à son directeur, le père Benedetto, que ses souffrances corporelles ne sont rien en comparaison de ses souffrances spirituelles, ses souffrances de l'âme. Et on peut dire qu'il a souffert de tous les côtés, de la part de Dieu, de la part des démons et de la part des hommes. Alors de la part de Dieu, ben, c'était ses aridités, les maux de l'esprit. Il a eu des consolations, certes, des extases, mais la plupart du temps, c'était la désolation complète. Un abandon complet et un sentiment d'abandon. Alors dans le cœur d'un prêtre qui veut aimer Dieu, ça devait être un martyr. Ça devait être un martyr. On ne peut pas comprendre cette souffrance qu'il avait. Et en plus, une autre souffrance que son confesseur dit qu'il a dû conserver jusqu'à sa mort, c'était d'être toujours dans l'incertitude du bien qu'il faisait. Il ne savait jamais s'il avait bien fait. Il venait confesser une personne, il ne savait pas s'il avait bien fait de lui dire ça, bien fait de lui donner l'absolution, bien fait de la renvoyer sans absolution. Il venait de célébrer la messe, il ne savait pas s'il avait bien célébré la messe. Toujours comme ça. Et c'était pas, il dit lui, c'était pas du scrupule, mais c'était la crainte de déplaire à Dieu, de ne pas avoir un fait assez bien. C'est pas du scrupule, vraiment, ça vient de ce don de crainte, qui est aussi un don du Saint-Esprit. La crainte d'offenser Dieu. Et, bon, pour nous, ça ne nous touche pas beaucoup, mais dans l'âme d'un saint, certainement, ça doit être un martyr terrible. Terrible. Parce que pour nous, il n'y a que Dieu qui compte, un saint. C'est Dieu avant tout, hein, Dieu premier servi. Ensuite, souffrance de la part des démons, alors non seulement au plan physique, mais aussi des tentations très fortes au niveau de l'impureté, de temps à autre, mais surtout contre la foi. Paraît-il a lutté énormément de tentations contre la foi. Il disait lui-même, des fois, à certains, c'est plus intime, « Prie mon fils pour que je garde la foi. » Il disait, « Comme il est difficile de croire. » C'est étonnant, on y pense, Padre Pio. C'est étonnant. Et ça nous montre que si nous-mêmes avons des tentations contre la foi, il ne faut pas s'en troubler à autre mesure. Une tentation n'est pas un péché. Une tentation est une épreuve. Une épreuve pour fortifier notre vertu. Et il disait qu'il avait j'ai sans cesse dans l'esprit des idées de blasphème, des idées fausses. Sans cesse dans l'esprit des idées de blasphème. C'est ce qu'il dit. C'est lui-même qui l'écrit dans une lettre à son confesseur. Et dans cet état, je ne fais rien d'autre que de dire avec une ferme résolution, bien que je n'en ai pas le sentiment, vive Jésus, je crois. Mais je le dis avec timidité, sans force ni courage, et je dois me faire grande violence à moi-même. Et là encore, il demande à son confesseur, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis vraiment dans la grâce? Est-ce que je plais à Dieu? Et ce sera souvent ces questions qu'il posera à son confesseur. Et il écrira dans un autre moment, le démon veut me perdre à tout prix. Si j'étais moins chrétien, je croirais certainement être possédé. Il disait même, est-ce que je ne suis pas possédé? Tellement le démon torturait son âme. Et lui, même, il a appelé dans le couvent, et puis après le matin, on lui a dit, vous avez crié cette nuit? Et il a dit, oui, j'avais un serpent sous les épaules. On lui a dit, vous n'avez pas invoqué la Sainte Vierge? Bien sûr, elle qui terrasse le serpent. Elle dit, je l'ai bien appelé, mais le serpent n'avait aucune envie de s'en aller. On en rit, mais... Voilà. Alors, souffrance donc de la part du démon, et puis souffrance de la part des hommes. Voilà. Et puis des hommes d'église, heureusement. Alors, j'ai parlé déjà de la première persécution, je vais aller vite parce qu'il reste 5 minutes. Je vous ai suffisamment parlé de la première persécution. La deuxième, vous en avez touché un mot, donc ce krach financier, ces capucins qui veulent récupérer des sous, et Padre Pio qui refuse, et du coup, il va y avoir des pressions qui vont être faites sur lui pour absolument arriver à le faire renoncer à son titre de propriété sur la casa. Et à la fin, ils vont arriver, les capucins, à lui faire signer un papier comme quoi il se défait de ses actions, mais il n'acceptera de le faire que seulement au profit du Saint-Siège. Ceci dit, c'était le Saint-Siège, enfin le Saint-Siège, certains évêques romains, Monseigneur, de curie romaine, qui étaient derrière les capucins et qui ont donc pris en l'administration de la casa. Et c'était pour lui un coup très dur. C'était un coup très dur. En attendant, c'était en 1960. Il résistait toujours. Et du coup, ses supérieurs vont décider sa mise sous enquête. Et en septembre 1960, le pape Jean XXIII va envoyer un délégué apostolique, Monseigneur Macari, Monseigneur, mais qui n'était pas évêque, c'était un Monseigneur un petit peu, hein, il en avait le titre à Rome, et qui va mener son enquête, mais tout à fait déjà défavorable au padre Pio dès le départ, qui va être vraiment infect avec lui, qui va prêcher dans l'église contre lui en sa présence, qui va obliger les femmes à se confesser en moins de 4 minutes, le dos toujours tourné au confessionnal, pour pas qu'elles voient Padre Pio, parce que c'était un péché d'impureté pour elles, de regarder Padre Pio, puisqu'il y avait des calomnies comme quoi il corrompait ses pénitentes. On va mettre des grilles autour du confessionnal. Voilà. Une femme qui ne pouvait pas se confesser au confessionnal parce qu'elle était complètement sourde, on va lui refuser la confession au Padre Pio. Donc d'habitude, il a confessé dans un endroit à part. Mais cette année-là, il devait fêter son anniversaire, son jubilé sacerdotal, ses 50 ans de sacerdoce. Monseigneur Macari va arriver là et puis va tout faire sauter. Voilà. Ça va être une cérémonie toute simple, alors que tout le monde se promettait d'en faire une belle fête. Un jubilé de sacerdotal, c'était une belle chose. Et là, son jubilé va être complètement mis à l'eau. Mais le pire, c'est que pour que ses accusateurs, voulant avoir des preuves pour montrer qu'il était immoral avec ses pénitentes, vont décider d'installer des micros dans le confessionnal. Et donc, ça va être le père Capucin qui était chargé, son ange gardien, un peu de l'aider à marcher un petit peu dans ses déplacements, le père Justino, qui va lui-même installer les micros dans le confessionnal, dans la sacristie où il confessait les hommes, et même dans sa cellule où il arrivait de confesser encore quelques fois. Et ça va durer 3 mois. C'était au printemps 1960, et un jour il va s'en rendre compte lui-même. Ça montre que, vous voyez, même le bon Dieu, des fois, quand même des saints, on ne voit pas, qui ont des vues extraordinaires. C'est comme le saint du Carmel d'Ars qui était trompé un moment sur la salette. Des fois, le bon Dieu permet qu'ils soient livrés à leur propre lumière. Et un jour, il va s'en rendre compte, il va couper le fil avec un petit canif qu'il avait sur lui, et ça va être pour lui une très grande souffrance. Et il va s'en plaindre, bien sûr, auprès de l'autorité qui avait elle-même télécommandé ça, son père gardien était au courant. Et bon, ça va être un petit peu circonscrit dans le couvent, mais un jour, ça va se savoir, bien sûr, ça va paraître dans la presse en 1961. Ça a fait un scandale. Rome va démentir aussitôt. L'Observatore Romano va dire c'est pas vrai, c'est faux, sont des calomnies, etc. Mais après, ça va être tout à fait prouvé. Et c'est quelque chose qui est bien connu. D'ailleurs, le cardinal Lercaro y a fait très nettement allusion dans son discours qu'il a fait quelques mois après la mort du Padre Pio. Donc, vous voyez jusqu'où ça a été. Jusqu'où ça a été. Le pire, cette souffrance pour le Père Pio, c'est que suite à ça, ce père capucin n'a jamais été puni. Jamais été puni. Et il a dit, si on veut me punir, parce qu'à un moment, quand même, on s'est étonné de ça, il a dit, si on veut me toucher, à ce moment-là, les colonnes de l'église vont trembler. Ça montre bien qu'il y en avait d'autres en l'heure qui avaient ordonné ça. Et il n'a jamais été puni, et il a même été promu, il a été ensuite vice-directeur du séminaire de, je ne sais plus, Trévise. Il a concélébré la messe de funérailles du Padre Pio. Il était avec les autres à concélébrer. Enfin, tout ça, bon, notre Padre Pio, lui, en était conscient. Hein, et venant de la part de frères, imaginez la douleur que ça devait être pour lui. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il s'en est plaint, soit des fils spirituels, soit des confrères de confiance. Il a dit, on me trahit. Ils m'ont tous trahi. Donc sous Jean 23, Padre Pio, c'était surtout là que la persécution était la plus forte. Et ensuite, ça s'est relâché sous Paul VI, qui lui était quand même assez favorable. Mais le Vatican s'était quand même trop engagé dans cette affaire, il y avait eu trop de scandales. Et à ses obsèques, il n'y aura pas de délégation officielle du Vatican. Si bien que Edmond Boniface dit qu'il est mort prêtre condamné. Parce que ces condamnations du Saint-Office n'ont jamais été relevées, n'ont jamais été annulées. Là, si vous voulez, il est réhabilité de fait par la béatification, mais ces condamnations du Saint-Office n'avaient jamais été annulées. Et en 1960, l'évêque Bourguignon et d'autres en ont fait état pour appuyer leurs accusations contre lui. En disant, mais comment ça se fait? Il a pas le droit de confesser, normalement, il a pas le droit de contacter les fidèles. Ces décrets du Saint-Office existent toujours. Alors, bon, en conclusion, quelques petits mots. Eh bien, donc, toutes ces choses-là, il faut quand même bien retenir que c'est d'être de leçon pour nous. Hein. Donc, Pablo Pio était vraiment un homme de grâce. Il nous a parlé un homme de prière, un homme qui savait ce que c'était que les sacrements, et puis aussi un homme de souffrance. Et donc, nous devons un petit peu retenir la leçon pour nous. Pour nous-mêmes, voilà, dans nos difficultés, dans nos problèmes, et aussi dans la crise de l'Église, qui est quelque chose de douloureux. Voilà. Padre Pio a souffert, on a vu qu'il a toujours voulu garder la messe traditionnelle, hein. Il a voulu toujours garder son habit religieux, et puis aussi, dans les derniers temps, on voit quelques confidences où il montre qu'il faut s'attendre à ce que les années qui viennent soient difficiles, hein. Il le disait. Plusieurs m'ont entendu dire le poisson pourri par la tête. En 1965, c'est-à-dire après le concile, il n'allait plus en récréation. Il était de plus en plus attristé, et il avait demandé même la permission à son père gardien de mourir. Il disait, le monde sera bientôt en feu. Il faut prier et faire pénitence tant qu'il est encore temps. Il disait aussi, mais préparons-nous au martyr. Préparons-nous au martyr. Alors, je ne voudrais pas terminer sur une note trop triste. Hein. Il disait aussi que le drapeau rouge flottera sur le Vatican, mais qu'à la fin, le cœur immaculé triomphera. Alors, on doit rester sur cette note d'espoir. Hein. Nous sommes un petit peu comme des spectateurs. Tout à l'heure, ceux qui vont regarder la vidéo après le chapelet, nous savons que ça se terminera bien. Hein. Nous savons que le film se terminera bien. Même si en ce moment, tout a l'air d'aller mal, c'est comme certains films romans. Policiers, en ce moment c'est l'accumulation, on n'en peut plus, on dit mais comment ça va se terminer, et puis à la fin tout le monde se terminera bien, ils se marièrent, ils eurent de beaux enfants. Bon, et bien, restons aussi sur cette vue là quand même. Le Père Pio était un homme d'espoir, un homme qui était joyeux aussi, hein. Malgré toutes ses souffrances, il était très très joyeux, très ouvert aux âmes, très 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 heureux de souffrir. Heureux de souffrir, il le disait lui-même, mais parce que donc, il voyait les choses d'une manière surnaturelle. Alors, nous lui demanderons cette grâce, nous aussi, de voir les choses d'une manière surnaturelle. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Et puis,
voilà. Je demande pardon, j'étais un peu là, on va être en retard pour le chapelet. Il y a peut-être des questions qui ont été posées, mais si vous voulez, après, oui, rapidement. Oui. Oui, j'ai... Maria Wisniewska. Oui, alors là, celui-là, il y a longtemps que je l'ai lu, j'avoue que... C'est possible, mais... Vous savez, il faut être très prudent hein, dans ce qu'on lit dans les livres, par exemple. Comme j'ai dit tout à l'heure, on voit des contradictions, des fois, entre deux auteurs. Et on le prête pour riche, hein. Alors, Padre Pio, on lui fait dire beaucoup de choses. Lui-même, des fois, se révoltait et se mettait en colère parce qu'il lisait dans la presse, on lui disait, vous avez dit ça, mais je n'ai jamais dit ça. Alors, on a mis des prophéties sur son dos que lui-même, de son vivant, récusait. Donc, il faut toujours être un peu prudent. Je ne dis pas que toutes les prophéties qu'on attribue à Padre Pio sont mauvaises, sont douteuses, mais simplement, ça demande une certaine prudence. Alors, je sais que mes parents, c'était dans les années 70, ils disaient qu'ils avaient lu dans le journal que Padre Pio a dit que dans l'an 2000, les voitures seraient silencieuses. Alors, nous, on s'était dit dans les années 70, bah, ce sera électrique, ce sera nucléaire. Puis maintenant, on se dit bah, peut-être qu'il y aura plus de carburant, peut-être qu'il y aura une crise, une comète, je ne sais pas. Mais peut-être que c'est une fausse prophétie aussi. Hein, ah oui, bah, non, prenez, vous faites bien entendre, monsieur, ça me fait plaisir. Parce que ça, c'est dans les Fioretti de Padre Pio, c'est publié par Mediaspol. Vous voyez cette photo dans notre bulletin, oui, on voit le monseigneur. Alors, il y a un soi-disant docteur, je ne sais plus quoi, qui dit qu'à ce moment-là, Padre Pio a fait une prophétie en disant à monseigneur qu'il crée un schisme, etc., qui diviserait l'Église, enfin tout un laïus, très long. Alors, il y a eu déjà une réponse dans Sissi Nono, qui a été faite, qui était très, très bien faite par un fils spirituel de Padre Pio. Monseigneur Lefebvre lui-même a démenti.
Et moi-même, pour en avoir le cœur net, parce qu'il faut aussi trouver des témoins plutôt que les personnes intéressées, sachant que le Père Barbara accompagnait Mgr Lefebvre ce jour-là, j'ai écrit au Père Barbara, enfin bien sûr on a parlé au Père Gardien, et le Père Barbara nous a répondu et nous dit, non, je vous assure, il n'y a rien de tout ça, et donc c'est comme, comme tout le monde le dit, enfin dans la tradition, donc Mgr a demandé à Padre Pio à la sortie de la messe entre l'autel et la sacristie de le bénir, et puis Padre Pio a dit, non, c'est plutôt à vous, Mgr, de nous bénir. Et alors Mgr donc s'est exécuté, l'a béni, et voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de plus. Et il n'y a même pas eu de compliments de la part de Padre Pio ou autre chose. Hein. Il venait d'arrêter la messe et puis il traversait et ça s'est fait très rapidement. Ah ben non, pour lui demander de le bénir, je pense pas qu'il doit se quitter. En tout cas, j'ai photocopié la lettre du Père Barbara, on l'a en plusieurs documents, je l'ai donné à des personnes aussi qui sont en besoin de la montrer. J'aimerais bien pouvoir avoir des témoignages de la part des Capucins qui étaient à côté, mais enfin, c'est plus difficile.
À côté de l'hôpital, la souffrance, il y a aussi l'hôpital, on est vraiment intégré.
Ah oui, c'est possible, oui. Ah oui, c'est bien.
Il y a 20 ans ou 25 ans.
Oui, tout à fait. Non, ça m'est bien. Sa bienfaisance s'est tendue vraiment très, très large. Oui, tout à fait.
Beaucoup de problèmes intérêts, alors. Évidemment,
il faut d'accord.
Oui,
c'est sûr.
C'est sûr. Enfin, on aura accès ce matin, les médias dont vous parlez, qui ne sont pas tellement malveillants comme le matin, vu que c'est encore donné la parole à... miraculé par le Patrick Pio.
Oui, c'est bien.
Oui, c'est un français. Oui.